Le canal de Manosque est un ouvrage d'importance datant de la fin du XIXe siècle, essentiel pour l'irrigation, toujours utilisé par de nombreux habitants et habitantes de la région et qui suscite l'intérêt de nombreux curieux. Néanmoins, il existe très peu d'écrits à son sujet et il est assez peu valorisé lorsque l'on parle de patrimoine local de Manosque. C'est chose faite avec le livre « Le canal de Manosque, de son invention à ses nouveaux enjeux 1862-2012 » aux éditions Alpes de Lumière, sorti en 2012. Il a été réalisé sous la direction de Claude Martel, présidente de l'association Alpes de Lumière, qui s'est donnée pour mission de valoriser le patrimoine de Provence depuis 1953. Claude Martel présente cet écrit ambitieux au micro de Fréquence Mistral.
On a pu le faire surtout grâce au fait que l'association du canal de Manosque avait conservé la totalité de ses archives, ce qui est absolument exceptionnel, dans un état parfait depuis 1862, qui est aux origines de l'idée de canal. Et ça, c'est absolument exceptionnel. Et des archives, surtout, d'une qualité... Elles avaient été tellement bien conservées que les encres originales qui avaient servi aux ingénieurs à faire tous les croquis était en état parfait. L'encre avait même pas pâli, quoi. Tout le long du parcours du canal, on va dire entre Château Arnaud et Corbière, hein, voilà les deux extrémités du canal, les ingénieurs ont fait un certain nombre de coupes et de profils avec tous les ouvrages d'art qu'ils avaient prévu de construire à ce moment-là. C'est énorme, les archives du canal de Manosque, c'est de pleines étagères, quoi. Il fallait les dépouiller pour comprendre comment ça s'était fait depuis les origines, cette histoire. Et c'est à ça que je me suis attelée. Ça a pris quand même presque un an. Oui, quelques mois, plusieurs mois, en tout cas, voilà. Et après, il fallait rédiger ce livre. Alors moi, évidemment, en tant que Alpes de Lumière, je l'ai surtout pris sous l'angle du patrimoine naturel et construit, c'est-à-dire l'art des ingénieurs du XIXe siècle. Oh, c'est pas pour rien qu'on appelle ça ouvrage d'art. C'est bien nommé, quoi. Et le soin que prenaient les ingénieurs, il n'y avait pas seulement l'ingéniosité, il y avait aussi l'amour du beau. Les ingénieurs à cette époque-là, c'était des ingénieurs de la pierre. Et ils faisaient de belles choses. Qu'ils construisent un pont, un aqueduc ou un simple petit ponceau, ils le faisaient avec autant de soin que s'ils avaient construit Notre-Dame de Paris, quoi. Voilà, on peut le dire comme ça.
Il y a de nombreux exemples dans ce livre et des photos aussi de ces ouvrages.
Alors le livre est un mélange de documents anciens, des croquis, donc des ingénieurs au départ, et des photos maintenant in situ de l'état de ces ouvrages d'art aujourd'hui. Alors, ils ont été très bien conservés. Il faut savoir que les ouvrages hydrauliques sont beaucoup plus fragiles que les ouvrages en pierre, quoi. C'est fait à la chaux hydraulique, l'eau détériore beaucoup plus vite les pierres que l'air. Enfin, il y en a qui ont été dégradés, évidemment, avec le temps. Mais les plus solides, ils sont tels qu'on les a faits il y a 150 ans. Hein.
Et alors, à l'origine de ce canal, en 1862, pourquoi il est construit ?
Alors, pourquoi il était construit ? Donc là, j'ai replacé le livre dans le contexte de l'époque. C'est-à-dire une haute Provence au milieu du XIXe siècle. C'est au début du Second Empire. C'était un des départements les plus misérables de France, les plus oubliés. Et on peut reprocher à Napoléon III tout ce qu'on veut, bien sûr, il y a de fortes raisons, mais il a été quand même un grand constructeur de la France, quoi. Il a pris en compte tout ce qu'il fallait faire pour restaurer le patrimoine de la France et pour faire repartir l'économie. Il a eu le souci, entre autres, de construire des canaux d'irrigation dans les régions les plus pauvres. Parce que dans les régions pauvres, il y avait deux choses qu'il fallait vraiment reprendre en main. C'était les voies de communication. Or, en Provence, ici en Provence, c'était catastrophique. Et l'arrosage pour l'agriculture.
Parce que c'est une vocation agricole, ce canal, à la base.
Et la Haute-Provence, c'était, comme toute la France, à vocation à 90% agricole. C'est pour ça qu'on a du mal aujourd'hui, à moins d'aller dans d'autres pays du monde qui sont toujours essentiellement agricoles, et Dieu sait qu'il y en a, hein. Mais ici, c'était pareil. Donc voilà, là, c'était essentiel pour l'économie de la France et l'économie des régions en particulier.
Il est dit dans ce livre que le canal de Manosque est moins connu que d'autres, comme celui des Alpines ou du Verdon. Pourquoi, à votre avis ?
Il est moins connu parce qu'il y a les canaux de la Basse-Provence, dont le canal Saint-Julien dans le Vaucluse, le canal Craponne, etc. Ils ont eu tout de suite parce que c'était dans des zones beaucoup plus peuplées. Et puis après, ils ont eu une histoire parce que c'était des canaux anciens. Il y avait aussi leur aspect architectural. Et on en a beaucoup plus parlé. En Haute-Provence, on ne parlait pas de ce qui se faisait. En Haute-Provence, n'avait aucune audience, pratiquement, à l'extérieur. Et même jusqu'à présent, jusqu'à ce qu'on fasse ce livre, c'était très peu connu, donc c'est bien de le faire connaître d'ailleurs à cet égard-là. Le canal de Manosque, c'est le dernier grand canal d'irrigation qui a été construit au XIXe siècle. Effectivement, depuis, on peut dire qu'il n'y a pas eu de grand ouvrage, c'est pas que c'est un très grand ouvrage, il n'y a pas eu d'ouvrage un peu sérieux dessus. Voilà. Il y a eu des rapports, il y a eu ça, ça va, des petites plaquettes, les amis de l'histoire manosquine avaient fait une petite plaquette, mais il n'y a pas de grand...
C'est donc le premier livre officiel uniquement sur ce canal.
On peut dire comme ça. Mais cela dit, on a pu le faire aussi, donc, grâce évidemment au soutien inconditionnel de l'association du canal de Manosque, à ses syndics. Hein, elle fonctionne depuis ses origines, comme ça. Elle a été fondée en 1868. Hein. Ces syndics sont tous des gens qui connaissent très bien le canal, qui connaissent son fonctionnement, qui connaissent un peu son histoire. Ils en connaissent les péripéties. Et ils savent des tas de choses que je ne savais pas, moi, donc. Et j'ai travaillé aussi grâce à eux, avec eux. Ils ont tous été très, très coopératifs.
Et aujourd'hui, ce canal, il est toujours utilisé ?
Ah ben bien sûr, il est toujours d'activité, il est très bien conservé. Il a réchappé miraculeusement à une mise en conduite que voulait faire la Société du Canal de Provence quand elle a repris la gestion du canal qui partait à volo, c'est le cas de le dire. Et puis, ça a été récupéré de justesse, en particulier, ça c'est assez curieux, non pas par des agriculteurs, mais par les nouveaux résidents de Manosque. Les néo-résidents, qui étaient des urbains, on va dire, et à qui le canal rendait de multiples services au quotidien, et qui ont dit, mais non, il ne faut pas mettre ce canal sous conduite, parce que d'abord, c'est un élément vivant dans le paysage, ça a renouvelé complètement les paysages en rive droite de la Durance, ce qui est vrai, l'eau ne se perd pas, hein. Elle irrigue les berges en rive droite. Ça y est, dans le livre, hein, toutes les utilisations dérivées, on va dire, du canal, en dehors de l'arrosage agricole. Et on peut dire que ce sont des urbains qui ont sauvé un canal qui était fait pour l'agriculture essentiellement. Oui, parce que quand il y a eu la construction de Serponçon, qu'est-ce qu'on s'est dit ? Maintenant, on a Serponçon, on a le barrage, on a le canal de Provence, on a de l'eau tant qu'on veut, en réserve. Voilà. Ça paraissait plus utile de conserver un ouvrage aussi coûteux. Ce qui est intéressant, c'est que ce sont des habitants qui l'ont sauvé, et à l'origine, ce sont des habitants qui l'ont voulu. D'un bout à l'autre, si on regarde ce canal, c'est un parfait exemple de démocratie participative. Il y a eu des pétitions, les gens se sont bougés, hein, parce qu'il y avait de multiples petits agriculteurs qui avaient quelques arts au bord du canal. Ce n'étaient pas des possesseurs de plusieurs hectares, hein, voilà. Donc il y en avait beaucoup, et ils ont tous fait pression. Ce qu'il faut dire, peut-être, c'est que normalement, la promenade sur les berges est interdite. Elle n'est pas faite pour le public, elle n'est pas faite pour les promeneurs à l'origine. Elle était faite pour les égadiers, c'est-à-dire pour les gens qui entretenaient le canal, qui entretiennent d'ailleurs le canal toute l'année. Et les berges étaient très soignées, très bien faites. Il y a des protocoles de construction des berges. Il faut voir jusqu'aux plantes qu'il fallait semer, quoi. Ça a été fait avec un soin énorme. En principe, partout maintenant, le canal a mis promenade interdite pour couvrir sa responsabilité. Si on veut emmener, par exemple, un groupe, moi, je peux le faire, personnellement. Hein. D'ailleurs, on me le demande très souvent. Je suis prête à emmener un groupe. Moi, je demande une autorisation à l'association du canal. C'est quand même eux qui sont responsables. Hein. Voilà.
Et vous pouvez joindre Claude Martel si vous voulez aller visiter ce canal sur alpedelumiere.com.